Nicolas Clerc. Je vous rappelle que le CAC 40 gagne 0,54% à 3702 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Merci Cédric. Les courses à présent au Lion d'Angers avec l'arrivée du Quintet Plus. 12, 4, 6, 16 et 7. Je vous rappelle que le 5 était non partant. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Et c'est bien sûr avec Patrice Gélinas. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, 1955-2004, 50 ans d'histoire du Maroc.
Déclaration faite par Sa Majesté Sidi Mohamed V, sultan du Maroc. Il nous plaît de manifester notre profonde satisfaction à la suite de l'important accord auquel nous sommes parvenus et de la reconnaissance de notre indépendance grâce à la compréhension que nos aspirations ont rencontrée auprès de la nation française.
D'histoire. Séparés de l'Europe par un détroit de 14 km de large, ayant partagé avec la France une histoire commune qui a duré plus de 40 ans, par son histoire et par sa géographie, le Maroc est sans doute le pays arabe dont nous sentons le plus proche. Gouverné aujourd'hui par les descendants d'une des plus anciennes dynasties du monde, il donne aussi l'image d'un pays moderne et en paix, dans un monde arabe agité par la montée du fondamentalisme. Mais malgré la stabilité du régime monarchique et la fermeté des trois rois qui se sont succédés sur le trône marocain depuis l'indépendance, les progrès de l'islamisme radical et les récents attentats de Casablanca nous rappellent la fragilité d'un État qui n'existe que depuis 48 ans, quand le Maroc accédait pacifiquement à l'indépendance le 2 mars 1956.
Dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay, M. Christian Pinault et le président Sibé Caille ont signé une déclaration commune franco-marocaine dont le chef du gouvernement chérifien a donné lecture.
Le gouvernement de la République française confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance du Maroc, laquelle implique en particulier une diplomatie et une armée, ainsi que sa volonté de respecter et de faire respecter l'intégrité du territoire marocain garantie par les traités internationaux.
Indépendance et interdépendance entrent dans le domaine des faits.
Ignace Dalle, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste à l'agence France Presse, dont vous avez été d'ailleurs le directeur au Maroc pendant 4 ans, et vous venez de publier chez Fayard un livre sur les trois rois qui ont gouverné le Maroc depuis l'indépendance, qui a été proclamé, on l'a entendu solennellement, en 1956, après 40 ans, plus de 40 ans de présence française, mais une présence qui n'était pas de même nature que la présence française en Algérie. Hein, c'était un protectorat, le Maroc. C'est quoi d'ailleurs un protectorat par rapport à une colonie comme l'Algérie?
Le traité du protectorat là, du 12 mars 1912 donnait à la France pratiquement tout pouvoir dans le domaine de la diplomatie et de la sécurité. Pour le reste, le sultan du Maroc pouvait diriger son royaume, enfin son pays. Pendant la résidence de Lyoté,
France était représentée par un résident général,
une espèce de gouverneur. Oui. Et le premier a été donc le maréchal Lyoté. Pendant la dizaine d'années où il a été en poste, les choses se sont bien passées. Lyoté adorait le Maroc. D'ailleurs, beaucoup de Marocains, et commençaient par Hassan II, lui ont rendu hommage par la suite et ont reconnu le travail bénéfique qu'il avait pu faire pour le Maroc. Mais après son départ, les choses se sont gâtées et l'emprise de la France sur le Maroc a été à peu près totale. Le sultan était pratiquement une potiche manipulée par des résidents plus ou moins...
Le poids de la France était considérable. Par exemple, c'est la France, je l'ignorais à vrai dire, qui a choisi ce qui est la capitale actuelle du Maroc, c'est Rabat. Avant, je crois que le sultan, qui avait d'ailleurs, il faut le rappeler aussi, des pouvoirs religieux, hein, c'était le commandeur des croyants, le sultan résidait à Fès.
C'est ça, tout à fait. C'est Lyoté qui a choisi Rabat à la fin des années entre, je crois, juste avant 1920, oui.
Alors, la présence française, et puis le rôle, l'influence l'indépendance de la France, évidemment, provoque la naissance d'un mouvement nationaliste qui, au début des années 50, est représenté d'abord par un parti politique qui s'appelait l'Istiklal, hein, je crois, Ignace Dahl,
essentiellement. Oui, enfin, l'Istiklal, les premiers nationalistes marocains, ça date des années 30. Ouazzani, par exemple, dont tout le monde a oublié le nom, qui était un des très grands nationalistes avec Harlal El Fassi, dès le début des années 30, quand il était étudiant en France, a commencé à militer pour l'indépendance du Maroc. L'Istiklal a été fondé au début des années 40, donc un peu plus tard, également par un certain nombre d'autres patriotes. Pendant toute cette période, le sultan Mohamed V, le futur roi Mohamed V, était tenu un petit peu à l'écart. Bon, il y a eu pas mal de contacts, les patriotes, les nationalistes l'ont poussé à rejoindre leur rang, ce qu'il a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, dans les années qui ont suivi, la plupart des résidents étant de plus en plus durs, la droite française étant souvent très maladroite, les tensions se sont exacerbées entre les patriotes et le sultan d'un côté et la France, ce qui a conduit en 1953 à l'exil en Corse d'abord.
Parce que le sultan s'explique le fait qu'il restera, au fond, roi du Maroc après l'indépendance. Il prend le parti du nationalisme, il réclame lui-même l'indépendance, et justement, il est envoyé en exil, vous disiez, en 1953, à Madagascar. Là, la maladresse effectivement est importante, parce que ça a fait redoubler de violence l'agitation nationaliste. Il y a notamment, on l'oublie toujours, mais il y a eu des heurts assez violents entre les Européens, qui sont assez nombreux, hein, qui sont, vous me disiez, de l'ordre de 300 à 400 000, hein, des pieds noirs, entre guillemets, au Maroc, et les musulmans. Il y a eu à peu près un millier de morts en 1955.
Ce qui est évidemment extrêmement peu comparé à la tragédie algérienne, où les morts se sont chiffrés par centaines de milliers. Mais il y a eu effectivement, notamment en 1955, plusieurs centaines de morts, quelques milliers de blessés. Par la suite, après l'indépendance, il y a d'ailleurs eu beaucoup d'autres morts, mais là, c'était des règlements de compte entre Marocains.
Alors, cette violence, en fait, est telle que pour ramener le calme, pour éviter au Maroc ce qui est en train de commencer à se produire en Algérie, la guerre d'Algérie commence en 1954, eh bien, la France fait machine arrière et autorise Mohamed V à rentrer dans son pays, où il reçoit d'ailleurs un accueil triomphal le 16 novembre 1955.
Écoutez, le Maroc qui vient d'accueillir aujourd'hui son sultan.
La porte vient de s'ouvrir. Et voici Sa Majesté dans une longue djellaba grise. Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef, une minute historique qui reprend contact sous les acclamations avec le sol chérifien.
Et voici, alors que nous entrons dans la salle, les cris de la foule massée sur le parcours, des femmes voilées, dévoilées. Les coups de fusil, ce sont les cavaliers ayant leur large chapeau qui tirent en signe de joie.
Et vous allez pouvoir entendre les premiers mots au Maroc de Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef. Hamdulillahi ala anzama hamlana wa adhab hazanana.
C'était le délire, hein, le retour de Mohamed V au Maroc après 2 ans d'exil à Madagascar, Ignace Dahl.
Ah, tout à fait. Je pense que son exil en a fait un véritable héros. Il était rentré que, je crois, 2 semaines auparavant en France, où il avait poursuivi les négociations avec les autorités françaises. Et tout ce qu'on peut lire à l'époque, le son que vous venez de nous donner montre à quel point il a été accueilli comme un véritable héros par son peuple.
Et alors justement, vous évoquez les négociations. Pourquoi est-ce que la France a changé brusquement d'avis après avoir exilé Mohamed V et le fait revenir?
Parce que c'était tous les nationalistes marocains, j'allais dire de gré ou de force, parce qu'il y avait quand même un certain nombre d'entre eux qui n'étaient pas monarchistes au départ, ont parfaitement compris qu'il était impossible de s'opposer à la volonté populaire qui voulait à tout prix que Mohamed V incarne l'indépendance du Maroc, le père de l'indépendance d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a appelé.
D'autant, je l'ai dit, et vous le rappelez aussi, Ignace Dahl, dans votre livre, que nous sommes en 55, en novembre 54, s'est déclenchée la guerre d'Algérie, et on voit mal la France avoir en quelque sorte deux guerres sur les bras, d'où le fait qu'elle se décide à accorder l'indépendance. Donc l'indépendance qui est négociée, Mohamed V arrive en novembre 55, retourne dans son pays en novembre 55 au Maroc, mais elle est négociée donc jusqu'au 2 mars 56, qui est donc l'accord d'indépendance. Quels sont les liens qui demeurent entre la France et le Maroc une fois que la France a reconnu son indépendance le 2 mars?
Alors on parle d'indépendance dans l'interdépendance. C'est une formule qui a été récusée par exemple un patriote comme Alal El Fassi, qui était le grand patron là de l'Istiklal. En fait, les liens demeurent extrêmement forts, aussi bien d'ailleurs sur le plan militaire que sur le plan financier.
L'armée française va rester longtemps,
oui,
encore, une partie de l'armée.
Elle va rester 5 ou 6 ans. La police marocaine va recevoir une aide considérable aussi de la part de la France dans tous les domaines. Dans le domaine financier aussi, l'aide française est importante parce que, évidemment, vous avez un grand nombre de Français qui commencent à quitter le pays. La situation économique et financière est mauvaise et ça ne va pas s'arranger avec le temps. Donc la présence française est une façon d'ailleurs assez discrète, parce que dans le livre, je crois que ça apparaît assez clairement, les Français aident le prince héritier qui est déjà, on peut le dire, l'homme fort, et par exemple des gens comme Ahmed Ghadira, le principal conseiller du futur roi Hassan II, et tout ce petit courant contre l'avis d'ailleurs d'une grande partie des patriotes qui voyaient ça d'un assez mauvais œil.
On y reviendra, Ignaz oui. Dalle, mais toujours est-il donc que l'accord d'indépendance est signé avec la France le 2 mars 56. Il prévoit bien sûr le retrait de la France et l'indépendance des territoires qui étaient sous protectorat français. En revanche, la partie espagnol du Maroc ne sera accordé que plus tard. Le Maroc espagnol, je crois que les Marocains l'obtiendront que plus tard. En tout cas, c'est en souverain que le roi du Maroc, Mohamed V, prend ses fonctions dans son palais de Rabat où il fait son entrée le 5 mars 1956.
J'aperçois maintenant derrière la garde chérifienne en tenue rouge, baudrier et guêtre blanche, les voitures du cortège impérial. Une foule dont une grande partie, je n'en doute pas, a suivi le cortège impérial depuis l'aérodrome de Salé, fonce maintenant littéralement, je ne puis employer d'autres termes, vers la porte principale du palais où se dirige le cortège impérial.
Pour sauvegarder l'existence de l'État, préserver l'intégrité et l'unité du territoire national et donner à notre pays la place qui lui revient dans le concert des nations, nous devons faire preuve d'une fermeté et d'une volonté inébranlable et avoir toujours pour devise servir la patrie avec abnégation et ne prendre en considération que son intérêt supérieur. Le monde nous observe. Il nous jugera sur nos moindres actes. C'est dans l'amour du travail en commun, sous le signe de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité que notre jeune nation doit croître et prospérer.
Alors c'était le premier discours de Mohamed V après l'indépendance de son pays, un discours traduit en français par son fils Moulay Hassan, le futur Hassan II que l'on vient d'entendre. Alors en réalité, malgré la popularité du roi, celui-ci, Mohamed V, se trouve devant les difficultés qui sont évidemment inhérentes au moment où son pays accède à l'indépendance. Vous l'évoquiez, vous le disiez, Ignaz Dalle. Et il y a d'abord un problème politique. Que va devenir le grand parti nationaliste d'avant l'indépendance, par exemple l'Istiklal?
Oui, alors dans un premier temps, donc des gouvernements sont constitués auxquels l'Istiklal est associé, mais comme il se méfie beaucoup de la popularité des principaux chefs de l'Istiklal, Mohamed V fait appel également aux amis de Ouazzani qui dirigeait le parti démocratique. Le PDI institutionnel, indépendant, pardon. Et Ouazzani et ses amis, qui n'étaient pas très importants, ont à peu près autant de portefeuilles dans le gouvernement que l'Istiklal, au grand dam de ce dernier. Des indépendants font également leur apparition, enfin le Mohamed V cherchait à équilibrer ses soutiens. Ça va durer quelques années jusqu'en 1959 où la vision de l'avenir de la droite de l'Istiklal et de la gauche, incarnée par Ben Barka, la droite étant incarnée par Alal El Fassi, les divergences apparaissent au grand jour. Et on va donc aboutir à la scission de l'Istiklal qui est probablement l'événement le plus important dans l'histoire, je dirais, du Maroc indépendant.
Et la création d'un nouveau parti, un des plus importants, l'UNFP, l'Union Nationale des Forces Populaires.
Exactement, oui.
Animé par Ben Barka, qui est un personnage étonnant. Ben Barka, on aura évidemment l'occasion d'en reparler, à cause du célèbre enlèvement qui s'est produit en 65. Mais Ben Barka, c'est quelqu'un qui connaissait très bien le roi. Je crois qu'il avait été son professeur de mathématiques.
Tout à fait. Ben Barka a eu son bac Matelem à 16 ans, avec mention très bien, pour le fils d'un tout petit artisan. C'était quelque chose d'assez extraordinaire, c'est quelqu'un d'une intelligence remarquable. Les Français, d'ailleurs, les diplomates français lui rendaient hommage pour sa vision, pour son intelligence politique, pour sa culture. Il avait une personnalité très forte, il était très populaire chez les jeunes, chez les étudiants. Pour la monarchie, c'était un rival inquiétant. Ce qui peut expliquer plus tard les ennuis qu'il a eus. Bon, je n'explique pas ici sa disparition. Le mystère demeure toujours 50 ans plus tard. Il se fait en tout cas qu'en 1965, un des principaux opposants a disparu.
Alors entre-temps, Mohamed V lui-même est mort en 1961 et c'est l'avènement donc de son fils Moulay Hassan qui devient, sous le nom de Hassan II, qui devient roi du Maroc à l'âge de 32 ans le 3 mars 1961.
L'accession du roi Hassan II au trône chérifien, consacrée par une intronisation solennelle au palais du Riyad, est un fait politique imprévisible il y a seulement quelques jours qui peut être déterminant. Quelle sera la politique personnelle d'Hassan II ? Pour l'instant, le nouveau roi se déclare le continuateur de la politique de Mohamed V. L'imam des croyants, qui se rend pour la première fois à la prière du vendredi, reste fidèle à la tradition alaouite. Mais cet imam est aussi un jeune roi moderne pour lequel les problèmes du Maroc et de l'Afrique du Nord sont les problèmes de l'avenir. Nous saurons bientôt s'il envisage sincèrement pour la construction de cet avenir l'amitié de la France.
Et c'était donc le début d'un très long règne, on l'oublie toujours, il a duré quand même 38 ans, ça veut dire que beaucoup de la plupart des Marocains, enfin, à sa mort, n'avaient vécu que sous Hassan II. Qu'est-ce que pensaient les Marocains au moment où il arrive, où il devient roi? Il avait d'abord déjà été formé par son père. Il disposait d'une force, vous le rappelez, très importante, puisqu'il était le patron des forces armées marocaines.
Oui, dès 1956, les forces armées royales, les FAR, ont été créées et Hassan II en a pris le commandement. Il a eu d'ailleurs 2 ans plus tard la guerre du Rif, qui a été une première occasion pour cette armée de mater la rébellion là, des Rifains, qui excédait d'ailleurs par le comportement de l'Istiklal, qui entendait prendre le contrôle de toute la région. Et donc, Hassan II, ne pouvant tolérer ses troubles, a fait intervenir l'armée. Ça lui a permis, d'ailleurs c'est là où il a commencé à travailler avec Oufkir, le général Oufkir. Et cette collaboration a duré jusqu'en 1972, jusqu'au deuxième coup d'État.
Mais le rapport entre les deux hommes, entre le père et le fils, entre Mohamed V et Hassan II, qui lui succède en 61, Yazdal.
Ce sont des rapports très complexes. On peut se demander s'ils se sont partagés les rôles. Je crois que ça s'est allé plus loin que ça. Il y a eu souvent des divergences. Par exemple, vous savez qu'en 1959, Mohamed V a fait appel à la gauche, à Abdallah Ibrahim, pour diriger le gouvernement.
Donc, je ne le savais pas, mais vous me l'apprenez.
C'est un socialiste. Au grand dam de son fils Hassan II, qui était très opposé aux thèses développées par Abdallah Ibrahim et les socialistes, il n'a eu de cesse, une fois monté sur le trône, que d'écarter les socialistes, enfin, et les dirigistes pour faire appel à ses amis libéraux. Bon, ça, c'était un premier point de friction. Un deuxième point de friction avec son père, c'était en politique étrangère, où Mohamed V était assez admiratif de Nasser, des nationalistes arabes, des indépendantistes africains, enfin en Afrique noire. Il avait de bons rapports, il y avait le groupe de Casablanca qu'il avait présidé. Il avait même écarté son fils, donc Moulay Hassan, qu'il avait remplacé par son frère Moulay Abdallah.
Donc, il soutenait ardemment, il faut quand même le préciser, on a oublié de le faire, mais il soutenait ardemment, bien sûr, la lutte du FLN algérien, puisque l'armée, l'ALN, l'armée du FLN, était stationnée en grande partie au Maroc.
Tout à fait.
Il y en avait en Tunisie,
oui,
mais au Maroc aussi.
Il a eu, d'ailleurs, Mohamed V a eu un comportement très affectueux avec les frères algériens, qui le lui ont bien mal rendu, puisque les engagements qui avaient été pris, notamment par Ferhat Abbas, sur la renégociation des frontières, n'ont pas été tenus par Ben Bella par la suite. Hassan II, lui, a été beaucoup plus réaliste que son père, s'est éloigné de Nasser, qu'il n'aimait pas, qui était pour lui un dangereux révolutionnaire, et il a opté pour une politique beaucoup plus pro-occidentale.
Disons qu'Hassan II est beaucoup plus conservateur en réalité que son père, très pro-occidental aussi, ne cachant pas son admiration pour les États-Unis par exemple.
Oui, sur un certain nombre de points, on peut le dire, bien sûr. Oui.
Et puis alors, disons, se débarrassant de l'Istiklal, de la gauche, il n'aime pas, en fait, c'est un homme de droite, plutôt Hassan II, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Ignace Dahl, non ?
Se débarrassant de la gauche de l'Istiklal, oui, et de oui. l'UNFP, oui, parce qu'il est resté, après tout, en bon terme, il les a même appelés au gouvernement, ils sont restés jusqu'en 1963, au gouvernement. Ensuite, bon, il y a eu quelques... Parce que l'Istiklal, vous savez, avait une vision là du Grand Maroc qui allait pratiquement jusqu'au Sénégal, ce qui agaçait beaucoup le jeune roi. Et donc, il s'est séparé de Halal El-Fassi et des ministres istiklaliens.
Et puis, s'appuyant plutôt, lui, sur les... Il n'aime pas trop les villes. Il y a d'ailleurs une révolte très importante, je crois, qui se produit à Casablanca en 1963, une première répression...
65,
pardon, oui. qui est une répression qui est assez violente.
Elle est
très violente même.
Extrêmement violente. On dit aujourd'hui qu'il y a eu entre 1000 et 1500 morts, dont beaucoup d'enfants, de lycéens. Ça a été quelque chose d'extrêmement dur. On a dit que le général Oufkir avait fait intervenir les hélicoptères, on mitraillait la foule. Ça a été quelque chose d'un bain de sang effrayant. Oui.
En fait, ce général Oufkir, qui va prendre de plus en plus d'importance, notamment au moment de l'affaire Ben Barka, ça devient l'homme fort du régime. Lui aussi, c'est un personnage étrange, Ignace Dahl, beaucoup plus complexe qu'on ne l'a décrit en France.
Oui, alors aujourd'hui, on commence à avoir un certain nombre de témoignages, à commencer par celui de son fils, par celui, enfin, d'autres personnalités, qui disent que Oufkir, après 65, a commencé à prendre ses distances avec Hassan II, et tout ça a culminé en 71-72, quand il a été une espèce de coordonnateur de tous les opposants. Oufkir, lui, ce qui l'intéressait, c'était le pouvoir, c'était pas l'argent. On dit qu'il n'aimait pas l'amour immodéré de Hassan II pour l'argent. Il pensait que la monarchie courait à sa perte, et donc
pourtant, il la soutient.
Oui, mais de plus en plus, on a le sentiment que c'était peut-être un peu du bout des lèvres. Je parle à la fin. Au départ, il l'a soutenu jusqu'en 65 sans état d'âme. Après, il y a eu manifestement la lecture du livre de son fils, là, Les Invités, Raouf Oufkir, est assez intéressante. Bon, maintenant, il prend évidemment la défense de son père, mais il essaye quand même de garder une certaine objectivité. C'est intéressant à lire, oui.
Mais c'est quand même l'armée sur laquelle s'appuie Hassan II au début de son règne, d'autant plus que un an après son avènement, se déclenche une guerre contre l'Algérie. C'est une guerre dont personne n'a jamais parlé, qui commence, je crois, en 63, Ignace Dahl. Et à cause des frontières, l'Algérie vient à peine d'accéder à l'indépendance, et il y a un problème de frontières, évidemment, entre le Maroc et l'Algérie.
Alors, je vous le disais tout à l'heure, les promesses qui avaient été faites par Ferhat Abbas n'ont pas été tenues par Ben Bella. Je crois que tout le monde aujourd'hui le reconnaît. Il y a donc eu la guerre des sables, comme on l'a appelée, en 1963. Que le Maroc aurait d'ailleurs pu gagner, mais Hassan II n'a pas voulu pousser son avantage en disant, je crois qu'il a été d'ailleurs très raisonnable, on va partir pour un conflit de 20 ou 30 ans. Alors à quoi sert de gagner un conflit si c'est pour avoir la guerre pendant 30 ans? Donc il a préféré revenir sur ses lignes, et il a préservé la paix, enfin, dans le Maghreb.
Alors pendant ce temps-là, il y a un homme dont on parle plus parce qu'il est parti en exil. Il a même, je crois, été condamné à mort par contumace par le roi. C'est Mehdi Ben Barka qui s'intéresse au tiers-monde, qui s'installe d'ailleurs en Algérie pendant un moment, et puis qui devient le chantre au fond du tiers-mondisme. Il rencontre Che Guevara. Il s'intéresse beaucoup plus finalement aux affaires du monde entier qu'à son pays, et il stigmatise à tout propos, ce que n'aime pas évidemment Hassan II, il stigmatise les Américains. On l'écoute ici d'ailleurs au Japon, le 18 août 1965, Ben Barka, trois mois avant qu'il soit mystérieusement enlevé à Paris.
Au Maroc, où le peuple marocain a reconquis par la lutte son indépendance politique, l'Union Nationale des Forces Populaires a poursuivi le combat jusqu'à l'évacuation des bases militaires françaises et américaines. Cependant, il nous reste à éliminer d'autres formes moins visibles d'influence étrangère. Ce sont là autant de domaines où se concrétise notre solidarité avec le peuple japonais et avec les autres peuples qui se trouvent face à face avec la prétention de cet impérialisme américain de régenter le monde, comme ce fut le cas cette année d'une façon flagrante au Congo, Léopoldville et à Saint-Domingue.
La police française enquête sur la disparition de M. Ben Barka, leader de l'opposition marocaine et créateur de l'Union nationale des forces populaires. Vendredi, M. Ben Barka aurait été mystérieusement enlevé devant le drugstore de Saint-Germain-des-Prés.
C'était la disparition de Ben Barka en novembre 1965, trois mois après le discours que l'on a entendu. Et ça, c'est une des choses les plus mystérieuses qui soit, parce qu'aujourd'hui encore, on ne sait que peu de choses sur les raisons de sa disparition, sur la façon dont elle s'est produite. On ne sait même pas où est passé son corps. Et pourtant, on dit qu'il était sur le point de se réconcilier avec le roi quand il a été enlevé, vraisemblablement, par les Marocains.
Oui, c'est une des hypothèses aujourd'hui qui revient fréquemment. D'autres disent, enfin quand on lit d'ailleurs les mémoires de Hassan II, on n'a pas l'impression que sa disparition l'a bouleversé. Ça l'a même, je crois, bien arrangé. Il y avait le principal opposant qui disparaissait, ça lui ouvrait la voie à un petit peu une politique indépendante des pressions de Ben Barka. Oui.
C'est en tout cas une des nombreuses affaires qui vont ternir le très long règne de Hassan II, dont nous continuerons de parler demain avec vous, Ignace Dalle. Je rappelle le titre de votre livre qui vient d'être publié chez Fayard, Les Trois Rois, la monarchie marocaine de l'indépendance à nos jours. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Anstram et Jean-Philippe Jeanne, documentation et archivina Virginie Bleuclené, Claire Tesser et Amélie Briand, réalisation Anne Kobilac. Il est 14h30 très précise sur France Inter, l'heure de retrouver Éric Ozon.